qui est dedans. Mais pour nous cacher, maintenant, ils donnent par ces récits. Nous, on paye les loyers. Ils donnent les récits de la carte bleue ou c'est pas, c'est un virement. Bon, ils donnent plus ça. Quand tu as besoin de les récits de ton quittance, bon, il faut demander. Si tu ne demandes pas, ils ne donnent pas. Parce que c'est pour cacher combien on paye.
Pour cacher combien vous payez, mais aussi, je pense, c'est pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Par exemple, on leur a demandé que la quittance de loyer, ils vous la mettent dans la boîte aux lettres.
Oui.
D'accord ? Ils ne la mettent pas dans la boîte aux lettres. Ils demandent que vous veniez la chercher dans le bureau du gérant.
Oui.
Pour que vous vous présentiez dans le bureau du gérant, pour qu'il contrôle si vous êtes là. C'est encore un truc de contrôle, ce machin-là. C'est un scandale. Car la loi dit qu'ils doivent vous donner une quittance.
Ils ne donnent pas.
Non, mais c'est incroyable. Les lois disent très peu de choses, et les très peu de choses qui sont dites par les lois ne sont pas respectées. Donc, il faut changer la loi.
Oui, alors quelles sont les perspectives? Est-ce qu'elle va évoluer bientôt, cette loi? C'est la question de fond.
Oui. Est-ce que la loi va évoluer?
Est-ce que la loi va évoluer? Nous, c'est ce qu'on souhaite. On a fait un colloque pour ça hier. On essaye de sensibiliser les parlementaires au fait que, bon, ils profitent de tout pour essayer justement de faire évoluer la loi. Et enfin, quand même, liberté, égalité, fraternité, là, on en est quand même loin.
Tout à fait.
J'espère que tout le monde a compris. Et pourtant, Dieu sait que...
On en parle.
Oui, Dieu sait qu'on pourrait même aller encore un peu plus loin. Hein.
Bon. Oui. Merci Geneviève. Bon, c'était l'émission des gens et des droits, l'invité du vendredi, une émission de la Fédération de Paris de la Ligue des droits de l'homme, proposée ce soir par la section de la Ligue du 15e. Cette émission avait pour titre les foyers travailleurs émigrés et le rôle du COPAF. Nous remercions chaleureusement Geneviève Petouton, Gérard Vinchon et Bakary pour leur collaboration. Vous avez entendu les intermèdes musicaux suivants. Tiken Jaffa-Coli, africain à Paris, Bernard Lavillier, croisière méditerranéenne, Domos Emigrantes, à Kouai, Tiken Jaffa-Coli, ouvrez les frontières, Rachita Yara et le vieux Farka Touré pour terminer. Diabaté. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Libertaire où l'émission sera téléchargeable pendant une semaine sur media.radio-libertaire.org.
Voilà, ben merci beaucoup. Alors, téléchargeable pendant un an maintenant. Voilà. Oui, oui, voilà. Ah, enfin bon, bien. C'est téléchargeable. Merci. Merci à tous.
Je le rajoute pour la prochaine fois.
Merci à tous. Thank you.
bienvenue dans Les Amis d'Orwell.
C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens.
Seul comptait la police de la pensée.
La rue, voilà le thème abordé dans cette émission ce soir. On a assisté tout simplement à la présentation du livre L'histoire de la rue, paru aux éditions Talendier. C'était à la librairie Quilombo dans le cadre de Paris Malgré Tout, un festival littéraire et politique organisé dans trois librairies parisiennes jusqu'au 10 juin.
Elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Les trois librairies, le Pied-à-Terre, La Friche et Quilombo, organisent jusqu'au 10 juin des moments de discussion et des balades autour de la ville. Et mardi dernier, nous étions à Quilombo pour rencontrer l'historienne Danielle Tartakovsky, qui a dirigé un ouvrage collectif paru en octobre 2022 chez Talendier, intitulé « L'histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours ». Alors, il y a des événements à peu près tous les jours dans ces trois lieux. Ça dure jusqu'au 10 juin. Le livre dont on parle ce soir a été écrit par cinq historiens, citant en plus Joël Cornette, Catherine Saliou, Emmanuel Furex, Claude Govard et donc Danielle Tartakovsky. Un chapitre qui débarque d'ailleurs sur l'Antiquité, essentiellement ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Un autre sur le long Moyen-Âge. Ensuite, une période plus contemporaine, ordonner la rue, ça c'est des chapitres. Ordre et désordre politique, et puis la rue aujourd'hui qui commence, selon les auteurs, à peu près au moment de l'invention de l'automobile jusqu'à l'heure de l'urbain généralisé. On écoute donc Danielle Tartakovsky qui va nous parler des trottoirs de Pompéi, du Paris haussmannien, de la barricade bien sûr, puis de la manifestation évidemment, et surtout du rôle de la rue dans les processus d'exclusion sociale. On l'écoute et juste après on revient avec quelques questions des personnes présentes dans la salle.
Paris occupe une place importante, mais je dirais le moins possible. C'est un livre à vocation nationale, voire à vocation internationale, dans la mesure où on s'est intéressé au phénomène de circulation avec les modèles successifs. Alors bon, l'Antiquité évidemment constitue une géographie à part, c'était l'héritage, mais l'héritage il fallait bien qu'on le prenne dans une géographie différente. C'est Catherine Saliou qui est la grande spécialiste de la rue dans l'Antiquité. Donc elle, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que c'était la première, c'est l'Antiquité, et comme elle est spécialiste de la rue, d'une certaine manière, elle avait travaillé sur la totalité ou presque des indicateurs, et donc elle nous a gagné un temps fou d'une certaine manière, parce qu'il y avait une très grande modernité des questions posées par l'Antiquité. On voulait pas non plus. Bon, l'Antiquité était l'Antiquité, mais après, on voulait éviter de couper l'histoire en tranches chronologiques non pas nécessairement pertinente pour cet objet spécifique qui est la rue. Alors c'est Claude Govard qui nous a sauvés. On avait une réunion. On s'est vu deux fois et on s'est mis à écrire. Et quand on a eu fini, c'était bon. Oui, alors c'est pas chronologique, mais c'est chronologique quand même. Je vous en expliquerai chemin faisant. Ce qui est sûr, c'est que la partie sur l'Antiquité porte sur l'Antiquité. D'abord parce que du point de vue matériel, on a là un héritage qui quelquefois est encore visible à l'œil nu, qui quelquefois est retrouvé à l'occasion de fouilles archéologiques dans le centre des villes, parce que c'est quand des archéologues au 19e siècle découvrent les trottoirs à Pompéi, dans des fouilles qui se disent bah, finalement les trottoirs c'est peut-être pas mal, il faut généraliser les trottoirs. Donc y a, là il y a un héritage technique qui est quand même tout à fait intéressant. Il y a un héritage théorique qui va circuler chez certains urbanistes plus que d'autres, qui va notamment circuler chez Poët, qui est le fondateur du musée d'histoire de la ville de Paris, qui a beaucoup travaillé sur Paris, donc avec une très bonne connaissance de ces textes théoriques qui ont circulé dans la longue durée. Catherine Saliou nous a cité Juvénal dans sa partie. Pour un peu, et par les temps qui courent, et où la méfiance prévaut partout, on pourrait presque dire que Boileau a fait du plagiat. On a aussi cité le fameux poème de Boileau sur les embarras de Paris. C'est pas de la traduction, mais ça s'en rapproche très, 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 de très près. Donc, je dirais, l'ensemble des problèmes, nombre de problèmes étaient là. Et qu'est-ce que je veux... En fait, ce qui nous intéresse sur le bouquin... C'est, je vais le prendre autrement. Il y a, dans un débat qu'on a fait, il y a mon interlocuteur qui m'a dit, mais alors vous avez travaillé pendant le Covid, comment ça s'est passé? Oh, bon, je lui ai dit, écoutez, ça nous on a écrit. Mais je dis, finalement, c'est intéressant que vous parliez du Covid, parce que pendant le Covid, vous inquiétez pas, je vais revenir à l'Antiquité, hein, j'ai pas oublié. on se mettait à la fenêtre, la rue était là. Il n'y avait plus de boutique, il n'y avait plus de terrasse, il n'y avait plus de passants, il n'y avait plus de voitures. Il n'y avait plus de chiens, il n'y avait plus rien. Est-ce que c'était encore la rue? Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas... Bon, bien sûr qu'on parle des réseaux et de la dimension technique des réseaux et des mutations technologiques qui sont opérées au cours du XXe siècle. Mais ce qui nous a opéré, c'est de voir comment, en longue durée, cet espace qu'on appelle la rue, qui ne se comprend que par ce qui l'entoure, par ce qui la peuple, par ce qui la traverse, par ce qui s'y côtoie, par ce qui s'y combat, quelquefois, est un lieu en perpétuel, où chacun cherche en perpétuel sa place, et comment c'est à la fois un lieu creuset, mais sans angélisme, et un lieu d'exclusion. Et ces problèmes-là, on les avait tous dès l'Antiquité, et après... Il ne s'agit pas de dire que tout est toujours pareil et que rien n'a changé, mais c'est vrai qu'on a été, enfin, tous les quatre autres, hein, pour que notre connaissance de l'Antiquité est un peu lointaine, on a été fascinés par le texte de Catherine, parce que du point de vue du droit, du point de vue de la réflexion sur les mots, de la multiplicité des appellations, c'est là, dans l'Antiquité, et encore une fois, c'est notre héritage à la fois matériel et pour une part intellectuelle. Et alors après, il y a une interruption. Parce que les invasions barbares, la chute de Rome, la crise urbaine, et donc il y a un trou dans le livre qui correspond à les villes s'effondrent, et avec elles, la notion de rue perd de ça. Donc notre histoire reprend vers le Xe siècle, au moment où il y a réémergence du fait urbain, et... C'est Claude Gauvard donc, qui nous a gagné un temps fou et qui nous a permis de structurer le livre. Je vous ai dit que je rendais toujours à César ce qui était à César. Elle nous a dit, mais c'est le long Moyen-Âge de Le Goff. Parce que la rue dans l'Antiquité et la rue dans l'histoire, la rue moderne, il y a des différences, certes, mais si moi j'écris ma partie et que Joël écrit sa partie derrière, on va se répéter en permanence. Et les deux autres, c'est-à-dire moi, et enfin Emmanuel Furex et moi, on se serait aussi répété. Donc on a une deuxième partie qu'on appelait le long Moyen-Âge de la rue, en empruntant à Le Goff. Ce long Moyen-Âge, dans un premier temps, enfin dans l'esprit de Claude, il allait donc du Xe siècle à l'époque moderne. Et Emmanuel Furex, 19e, a dit « Oui, bon, moi je suis désolé, les chiffonniers à Paris... C'est cette rue dont vous parlez, c'est cette rue bruyante, cette rue sale, cette rue menaçante, cette rue inquiétante, cette rue qui n'est pas entretenue, cette rue fantasmatique. »
Vous dites, vous écrivez que justement le tableau de Philibert Midiocourt l'illustre parfaitement, par exemple page 111 pour ceux qui peuvent avoir le livre. Puisque là, c'est vraiment ça, c'est défini le long Moyen-Âge de la rue. Ouais.
Et pour un peu, j'y aurais mis ma patte en disant que que les lotissements des années 20 qui ont été étudiés par Annie Fourcault, ils trouvaient parfaitement leur place dans cette absence de rue, finalement. Ces pavillons qui sont construits sur des lots, mais qui ne sont pas, où il n'y a aucun raccord d'aucune sorte, ni à l'électricité, ni à l'eau, ni aux routes. Bon, puis on s'est dit qu'il fallait peut-être pas tout mettre dans tout qu'en tout. Alors, certes, à le Moyen-Âge de la rue, mais bien sûr, nous sommes historiens, et que je vous l'ai dit, nous ne pensons pas que tout est dans tout et à plein temps. Donc, on a une troisième partie qui porte sur les innovations successives, qui débutent avec la fin du Moyen-Âge. Enfin, faire de la rue un espace lycée ordonné, qui est une obsession permanente, une volonté permanente des gouvernements successifs, je dirais, à la fois pour des raisons de circulation et pour des raisons d'ordre public, les deux. Hein. Tenir la rue, mais en même temps circuler dans la rue, parce que c'est quand même une de ses fonctions premières, étant entendu que les circulations sont multiples. Et alors là, on a effectivement des apports chronologiques successifs qui portent sur l'éclairage, qui portent sur la police de la rue. Enfin, là, on les prend chronologiquement. On prend la table des matières, mais on prend toutes les innovations qui visent encore une fois à clarifier, ordonner, structurer, maîtriser. Au départ, j'avais dit, j'y mets l'automobile, c'est la dernière des grandes mutations. Mais ça nous amenait à traiter l'automobile avant la Révolution française, on a eu pitié du lecteur. Alors, j'ai gardé l'automobile, j'étais toujours la victime. Là. Et donc, on a ensuite une quatrième partie, là, on y est tous, sauf Catherine Saliou qui a dit c'est pas pertinent pour moi, qui est le rôle politique de la rue. Qui débute au XIIe siècle hein, avec les luttes communales pour les libertés communales qui a une centralité dès l'époque moderne avec la Fronde avec les guerres de religion qui est bien sûr le lieu des révolutions donc cette spécificité française qui est non seulement le rôle politique mais la centralité politique des rues et pas seulement des rues parisiennes dans la longue durée donc là on a tous Et donc la dernière partie, dont je suis responsable, je l'ai appelée la rue d'aujourd'hui, ce qui me posait une question, ça commence quand aujourd'hui? Et en fait, bon alors je la commence avec l'automobile, parce qu'encore une fois, à un moment donné, il faut quand même être un petit peu pédagogique. Mais finalement, c'était pas mon choix initial. Enfin, je veux dire, si c'était un bouquin que j'avais fait toute seule, pourtant uniquement sur la rue d'aujourd'hui... Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben parce que Haussmann, je sais, il n'a pas toujours une bonne cote. Moi, je ne suis pas une anti-Haussmann. J'ai été une anti-Haussmann acharnée. Je ne suis plus une anti-Haussmann acharnée. Parce que quand même, hein, il fait construire par les ingénieurs Paris. Et puis il y a les villes haussmanniennes qui prennent quel modèle. C'est un modèle qui s'étend au-delà même de la France. L'automobile n'est pas inventée. Ça dure un siècle. Donc il y a quand même une capacité visionnaire. Alors on trouve que c'est bien ou pas, hein, je sais pas. Mais il y a une capacité visionnaire qui fait que l'automobile, donc inventée au tournant du siècle, va pas modifier fondamentalement les usages multiples de la rue jusqu'aux années 50. Et donc, moi, j'aurais volontiers commencé au moment où on commence à dire ça. Il y a une hégémonie de l'automobile, il faut en tenir compte. C'est-à-dire Le Corbusier, c'est-à-dire Pompidou. Je m'excuse, je prends la photo là. C'est le début du XXe siècle, hein, vous la regarderez en sortant. C'est une rue, c'est dans le 9e. Il y a tout dans la rue. Il y a tout dans la rue, pas sur les trottoirs. Hein. Il y a des voitures, il y a des chevaux dans tous les sens, il y a des piétons, il y a des marchands. Et là, l'automobile est inventée, mais elle est là au milieu du reste. Hein. Et en fait, donc dans cette rue d'aujourd'hui, je crois qu'il y a deux temps. Il y a le temps où effectivement la circulation automobile commence à devenir un tel problème que d'aucuns disent il faut restructurer la ville en fonction de l'automobile. Et à partir de là, c'est le moment initié par Le Corbusier aussi qui nous dit qui parle de la mort de la rue hein, et qui dit que la rue est le chemin des ânes. Hein. Et qui assume la mort de la rue en tant qu'elle était précisément ce lieu de la complexité, ce lieu des et puis avec la mort de Pompidou qui nous sauve en partie s'agissant de en tout cas du paysage parisien, et une série d'autres facteurs, on a ce que j'appelais le retour de la rue, et donc j'ai largement développé dans la dernière partie le retour de la rue dans le domaine urbanistique, dans le domaine artistique, dans le domaine politique, évidemment, hein, on pourra en reparler après. Voilà à peu près la répartition des tâches et le plan du livre.
C'est une bonne introduction. On va revenir sur certaines parties, sur certains points. Vous avez expliqué ce que Claude Gauvard et Joël Cornette appelaient le long Moyen-Âge de la rue. Et au 19e, pendant la révolution industrielle, ce qui se passe, c'est y a vraiment un changement de conception de la ville. Et la rue, on la conçoit avant tout à travers le prisme économique. Parce qu'en 1832, il y a une ordonnance de police qui déclare que la rue doit être spécialement affectée à la circulation. Ça va être
C'est le début de quelque chose qui va évidemment s'accentuer, va s'imposer de fait avec l'automobile. C'est antérieur, bien sûr.
Ouais. Et là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur ce 19e qui est...
Il y a la création d'un marché national qui s'opère progressivement. La création d'un marché national, c'est progressivement les trains, mais c'est aussi les routes. Et à partir de là... on est plus seul. Il y a le problème de l'articulation. Alors notre ouvrage porte sur la rue et la ville, mais il y a quand même quand est-ce que la rue devient la route et quand est-ce que la route devient la rue. Donc effectivement, cette attention première pour l'économie, avec on a quand même on a essayé de pour nous, la rue, c'est la rue et les bâtiments qui la bordent et ceux qui la traversent. Hein, donc. Mais on a essayé de ne pas faire de l'histoire urbaine générale et de s'en tenir quand même à la rue. Il n'en demeure pas moins que la rue des cités minières n'est pas la rue, n'est pas la rue parisienne, n'est pas la rue des petits villages. Et donc on a quand même pris beaucoup d'exemples différents en fonction effectivement de la place dans l'espace national et des fonctions économiques.
Et alors, malgré tout, vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, à travers les grands projets urbanistiques d'Haussmann, est-ce qu'on peut dire que Paris est une sorte de laboratoire de la transformation des rues?
Alors, pas toujours, puisque par exemple, c'est à Caen que pour la première fois, on va numéroter toutes les... Il y avait des amorces de numérotation, mais la première ville où il y a une décision royale, pour des raisons militaires d'ailleurs, de mettre des numéros partout, c'est à Caen. Donc il y a quelquefois des initiatives qui viennent d'ailleurs, et je crois que c'est Joël, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est Joël, qui parle d'un monsieur qui a un nom nobiliaire, j'ai oublié lequel, à Paris, parce que la numérotation se répand, et donc il se retrouve tout dans son hôtel, je ne sais pas si c'est à Saint-Germain ou dans le Marais, mais et il dit « je ne suis pas un numéro ». Il le prend très mal.
Pour les raisons militaires, c'est-à-dire ?
À Caen, oui, c'était pour que il y avait des troupes en cantonnement, il fallait qu'elles puissent se retrouver un petit peu, la première... On y voit clair.
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des mouvements sociaux et des manifestations. Et donc, au Moyen-Âge et pendant l'époque moderne, il y a la révolte, elle naît, elle grandit, et elle se brise dans la rue. Et cette fois, la rue est finalement au cœur de la révolte. Donc, au Moyen-Âge... on assiste à des...
Ah, elles ne se brisent pas toujours, hein, parce que par exemple les communes, elles les obtiennent, leur charte communale.
Ah ben oui, mais après, elles se brisent quand même assez souvent, surtout au Moyen-Âge, il y a des changements...
Ça dépend des révoltes.
Révolte des Ciompi en Italie...
Ce que je dis, ça dépend des révoltes. Les révoltes communales qui sont appuyées sur la bourgeoisie, sur la bourgeoisie de ville qui sont des villes riches, je vous parlais de l'économie tout à l'heure, l'emportent parce qu'il y a des systèmes d'alliance entre la monarchie et la bourgeoisie urbaine de ces villes florissantes contre les seigneurs, alors que, évidemment, les révoltes populaires, au sens que nous donnons à ce terme aujourd'hui, finissent plus mal.
Assez mal, ouais. Parce qu'il y a le carnaval de Romans en Isère aussi, que là que...
Oui, alors on a beaucoup travaillé sur toutes les formes d'investissement de la rue, donc bien sûr le caravane.
Et alors la différence justement entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est vraiment des batailles de rue assez brutales, mais assez fulgurantes. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fil des siècles et des révolutions, y a un objet qui va devenir le symbole de la rue en résistance, c'est la barricade.
Alors on a fait effectivement une bonne partie du chapitre 4, c'est la barricade en longue durée,
oui.
Parce que c'était pratiquement le fil. Barricade, barrique, l'étymologie de barrique, destinée. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans un pays. La liberté guidant le peuple, elle est pas. Est-ce qu'elle est sur une barricade ou pas? Non, mais elle est sur des pavés quand même, qui sont quand même métonymiques de la barricade. Et dans notre imaginaire, c'est bien clair que barricade, c'est quand même dans notre imaginaire, je dis bien. Or, dans les différents épisodes de l'époque moderne, du 19e siècle bien sûr, et encore en 68, sous la Commune évidemment, la barricade est un élément défensif. La barricade... Donc au début, ce ne sont que des barriques avec des chaînes tendues. Sous la Commune, vous savez que ce seront de véritables constructions impressionnantes. Ça les empêchera pas d'être prises, évidemment. Mais la barricade est là pour défendre un territoire. Elle est là pour défendre un quartier. On attache beaucoup de... C'est une histoire sociale qu'on a faite. Elle n'est pas... Enfin, sociale et politique, mais c'est beaucoup plus sociale et politique. Enfin, c'est un peu tout, mais la dimension principale, je crois pouvoir le dire, c'est une dimension sociopolitique, et plus sociopolitique, d'ailleurs. Il s'agit de protéger un espace qu'on considère comme sien. Et ça, c'est intéressant. Je vais prendre ce que je connais mieux, 68. Pourquoi est-ce que les étudiants font des barricades? Parce que la police leur interdit l'accès au quartier latin. Et le quartier latin, c'est eux, c'est chez eux. C'est chez eux. Et donc, il y a une dimension défensive de la barricade de longue durée. J'aurais tendance à dire qu'après 68, on a encore des citations de barricades, mais pour moi, ce ne sont plus que des citations. On les contourne à droite, à gauche, enfin, bon, les gilets jaunes. Mais parce qu'il y a cette longue histoire, avec tout un système de représentation, avec des chansons, avec le fait qu'on a pratiquement consacré un chapitre à ça, quand même, dans un ouvrage où on parlait quand même de beaucoup d'autres choses, quand on mobilise le mot barricade, Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur la manière dont on évalue, dont on se situe et sur les espérances. Même si c'est un peu à contre-pied, puisque je le répète, c'est assez défensif et souvent ça finit mal, parce que quand c'est défensif avec des forces plus nombreuses qui attaquent, il est rare que ça finisse bien. Mais c'est vrai qu'on a là une... Alors c'est pas totalement exclusif, le fait exclusif de la France, mais cette longue durée et encore une fois cette construction d'un imaginaire qui se relaie, la force des représentations est quand même quelque chose qui est assez spécifique à la France.
Et parallèlement à ça, plutôt vers la fin du 19e, y a la manifestation de rue qui apparaît comme l'un des moyens de peser sur le pouvoir politique. Et Haussmann n'avait pas forcément imaginé que voilà, les aménagements qu'il allait faire, que le peuple allait pouvoir se réapproprier ces grands boulevards.
Je ne sais pas si le peuple est... Parce que le mot peuple est aussi important d'un imaginaire et les premiers déploiements dans l'espace public, c'est peut-être pas exactement le peuple tel que nous le rêvons. Mais c'est vrai que la géographie des manifestations parisiennes, en tout cas, mais un petit peu en province aussi, va chausser, c'est le cas de le dire, les espaces haussmanniens. Alors d'abord, il faut bien voir que la situation, s'agissant des manifestations, la province et Paris sont deux mondes différents, puisque la manifestation n'est pas un droit, elle n'est inscrite dans aucune de nos constitutions. Il faut attendre 1997 pour que le Conseil d'État en fasse, en termes de jurisprudence, une liberté constitutionnelle, mais c'est jurisprudentiel, c'est pas inscrit dans la Constitution. Donc c'est un truc. On investit l'espace public, et ça, finalement, l'espace public, on l'investit, je disais, depuis le XIIe siècle, quoi. C'est pas... Et ça a des noms, et ça peut être à l'occasion de formes traditionnelles que sont la procession, que sont le carnaval, que sont d'autres formes d'investissement de l'espace public. Donc je vais dire le truc que je rayais quand j'avais des étudiants, et l'homme depuis qu'il existe a toujours, etc. Hein. Donc l'homme depuis qu'il existe, enfin, en tout cas, depuis les religions du livre, on marche. Hein, pour exprimer et pour dire non. L'Exode en marche, l'Égypte en marche, et Gandhi, qui n'est pas une religion du livre, marchera. La marche et l'espace public sont des modalités, je dirais presque anthropologiques, du soulèvement et donc de l'expression, d'une volonté, d'ailleurs d'une volonté plus que d'un mécontentement, peut-être. On dit non et on avance. Et donc, on trouve là les révoltes dont vous parliez, on trouve là les révolutions du 19e siècle. Elles se font dans le même espace, qui est l'espace de la rue, l'espace public. On trouve là nos manifestations. Le premier texte qui va, en creux, non pas les définir, mais j'ose même pas dire les régimes, les régir, c'est plus flou que ça, la loi municipale de 1884, qui donne aux maires le pouvoir de police sur leur commune, dans un de ses articles, dit que les maires ont le pouvoir de veiller au bon ordre des marchés, des foires, donc des rassemblements de toute nature, mais le mot manifestation, évidemment, n'est pas présent, il n'y a même pas défilé. Enfin bref, tout ce qui regroupe, ça veut dire que, puisqu'il a le pouvoir de veiller au bon ordre, on peut estimer en creux, c'est pas dit qu'il peut l'autoriser, puisqu'il y a le bon ordre, ou au contraire, il peut l'interdire parce qu'il n'y a pas le bon ordre, mais tout ça est... À Paris, vous savez que jusqu'en 1977, nous n'avons pas de maire élu, et que par conséquent, le traitement de ces questions découle directement du ministère de l'Intérieur. Donc, pour prendre une formule anachronique, c'est tolérance zéro. Donc, il y a de très très rares exceptions, mais globalement, il n'y a pas de manifestation tolérée. Il y en a une en 1909, après l'exécution de Francisco Ferrer, le pédagogue libertaire, qui a été exécuté par le gouvernement espagnol. C'est intéressant parce que c'est la première manifestation internationale de solidarité et de protestation. On a appelé ça la grande protestation, la grande proteste, hein, parce que c'était d'abord en Espagne. Dans le monde entier, enfin dans, en tout cas le monde industrialisé entier, il y a eu des manifestations, souvent réprimées d'ailleurs, pour protester contre l'exécution de Ferrer. Et ce jour-là, il y a eu une manifestation anarchiste un peu agitée. Les socialistes ont repris le bébé en main en allant voir Clémenceau et en disant « Est-ce que vous nous autorisez de faire autrement ?» Et c'est la première fois que Clémenceau, donc on est en 1909, dit que dans des circonstances où on serait sûr, où le gouvernement serait sûr que des organisateurs seraient en position de maintenir l'ordre, on pourrait imaginer, c'était conditionnel tout ça, on pourrait imaginer qu'une manifestation puisse être tolérée à Paris. C'est là. J'ai pas d'autres exemples à vous offrir avant la crise de 34.
C'est là que le service d'ordre tombe.
C'est là que les hommes de confiance sont créés, puisque les socialistes vont effectivement faire preuve de leur capacité à ordonner. Alors, c'est d'autant plus facile. Enfin, je veux dire, Clémenceau peut d'autant plus se permettre cette entorse à la norme. Même si par ailleurs c'est Clémenceau briseur de grève et qu'on a des choses à lui reprocher dans les manifestations de province, je le dis parce que des fois je me fais gronder, alors je préfère prendre l'initiative avant que vous me grondiez. Donc je sais que par ailleurs c'est Clémenceau briseur de grève, que c'est une manifestation contre le gouvernement espagnol. C'est plus facile de tolérer, de rôder le truc face à un gouvernement espagnol. Alors ils ont protégé l'ambassade, comme on sait bien. Enfin, ils n'avaient pas les barrières anti-émeutes. Enfin, ils protègent l'ambassade, ça c'est normal. Mais c'est intéressant de voir que la première tolérée dans Paris, c'est contre un gouvernement étranger, pas contre le gouvernement. Et effectivement, les socialistes initient ce qu'ils ont appelé les hommes de confiance. Et d'autre fois, j'ai eu un journaliste, donc on parle au téléphone, alors je demande toujours à relire parce que je parle vite, parce que... Et alors j'ai bien fait parce qu'il avait mis les hommes de confiance. C'était pas de sa faute, c'est parce que j'articule pas. Donc c'est pas des zones, c'est des hommes de confiance. Dans le terme de service d'ordre va s'imposer dans les années 30. Comme ça.
Et donc, votre dernière partie, vous l'avez fait commencer à partir des années 50 avec l'hégémonie de la voiture et les rues n'ont pas d'autre choix que s'adapter à la sacro-sainte circulation. Mais pourtant, dès les années 70, il y a des voix qui se font entendre et on va exiger un retour à la rue. Il y a pas mal de monde qui critique.
Oui, à partir des années 70, il y a un phénomène de retour de la rue, mais ce que je le savais en politique. Mais je peux vous en expliquer après si vous voulez, mais je ne veux pas tirer la couverture à mes manifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce retour de la rue, par retour, j'entends une volonté de s'approprier la rue pour ses propres pratiques, pour faire de la rue le lieu d'une co-construction d'objets nouveaux dans les pratiques qui sont les siennes, qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse du street art. Alors j'ai fait la liste de tous les streets. Il y a street food, il y a street art, il y a le piano des rues, mais il y a une dizaine maintenant de streets qui se promènent, évidemment. Et donc c'est à la fois le retour de la rue, et puis, et je parlais des modèles anglo-saxons, des modèles américains, des appropriations nouvelles de la rue, qui débouche sur le plan artistique, culturel, mais aussi politique, parce que ça va de pair avec l'émergence, c'est au moment des contre-sommets de ce qu'on avait appelé les artivistes, hein. Donc une espèce de, pas de fusion, mais d'articulation entre de nouvelles pratiques artistiques qui mobilisent l'espace public, parce qu'ils sont là pour être vus, dans le cadre de mobilisation politique, avec des acteurs qui modifient leurs pratiques politiques sous ces formes-là. Et c'était très intéressant de voir que tous ces gens ne se parlent pas. Bon, le théâtre de rue, bien sûr. Dans l'ensemble des secteurs, il y a des théorisations du retour à la rue. Alors là, je connais bien l'aspect politique, mais le reste, j'ai lu. Hein. Mais j'étais absolument fasciné de voir que c'était absolument partout et que donc ça devient une question transversale pour des problèmes initiaux qui ne sont pas les mêmes, mais qui fondamentalement, et par-delà évidemment les pratiques différentes que ça véhicule selon qu'on est urbaniste, architecte, activiste tout court, ou artiste, ou tout ce que vous voulez, ça va de pair avec un glissement qui fait que, certes, retour à la rue, mais en fait, rue est de plus en plus remplacée par espace public. Et avec, évidemment, la bivalence du terme espace public. Donc, ce retour à la rue qui présente, pour une part, des caractères techniques, va quand même de pair avec une réflexion politique sur l'espace public, qui est finalement la démocratie. Et donc, la dernière partie, de fait, est devenue politique, mais quand je dis politique, c'est pas de la politique comme j'en faisais dans mes autres bouquins. Politique au sens où les acteurs réfléchissent à ce que leur rapport redéfini à la rue peut impliquer en termes de politique redéfinie, au sens évidemment le plus large possible du terme politique. Alors, je m'excuse, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais le dire tout de suite aussi, quand même. En longue durée, et ça, c'était quand même intéressant, on sait, parce que là c'est la rue s'empare, hein, que je suis en train de vous présenter. Ça, c'est la rue dont on s'empare pour faire des trucs chouettes. C'est vrai. Mais en longue durée, on a suivi de très près tous les phénomènes qui vont de pair, tous les phénomènes d'exclusion. Et alors là, c'est très intéressant. Je veux dire, la prostitution, on parlait de l'Antiquité. Là, Catherine Saliou, elle en a autant que nous. Et on a les mêmes phénomènes d'exclusion des centres, de mise à l'écart. La France n'est pas l'Angleterre. Il n'y a pas eu de grand renfermement au sens où l'Angleterre a eu un grand renfermement. Mais on les suit en longue durée avec, évidemment, aujourd'hui... les pics d'or de l'abbé Pierre. Bon, vous avez vu qu'on va reloger ailleurs nos sans-papiers de l'Île-de-France. On va les envoyer à la campagne. On ne sait pas ce que. Bon, enfin, c'est terrifiant. Mais alors ça, je peux vous dire qu'on l'a tout le temps. Et alors on l'a. On n'a pas fait de chapitre dessus, mais c'est un des fils à peu près aussi directeur que la barricade, d'une certaine manière. Mais en pointillé, mais il est là tout le temps. Et la rue, c'est finalement toujours cette tension entre le lieu du, ben oui, c'est ça, d'une construction, d'une reconstruction d'espace public, mais l'espace public n'est pas toujours l'espace public pour tout le monde. Ou certains pensent que pour que l'espace soit public, il faut justement en exclure un certain nombre de gens.
Les amis d'Orwell ce soir sont avec Daniel Tartakovsky qui présentait le livre L'histoire de la rue cette semaine à la librairie Quilombo. On fait une petite pause avec forcément La rue qui est à nous et son morceau Le capitaine de la barrique.
C'est qui croque, qui sec la pomme? Qui met du calva dans son rhum? Sa ponctuation fait des hics. Le capitaine de la barrique. C'est qui n'a pas eu d'enfant? Dis-moi, c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique. Le capitaine de la barrique. Et c'est qui chante allez roule? Allez roule et roule ma poule. Dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. C'est qui pêche le varec et les emmerdes qui vont avec. C'est qui assort Moby Dick. Le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste, c'est qui passe devant la crique. Le capitaine de la barrique. Dans le port de Montville-la-Rogue, il râle ses filets plein de gold. Le homard avec l'élastique. Le capitaine de la navigue pas tout seul avec Elsa son Jack Russell. C'est qui a un chien de cirque. Le capitaine de la barrique. Quand il a noyé son permis, c'est qui a dit c'est à qui. La belle voiture électrique. Le capitaine de la barrique. C'est qui en voyant la terre de Jersey
dans Les Amis d'Orwell avec donc cette rencontre avec Daniel Tartakovsky. Cette historienne a dirigé l'ouvrage L'histoire de la rue paru chez Talendier à la fin de l'année dernière et on a gardé des questions et des remarques des personnes présentes ce soir-là. La première concerne les libertés communales dont il a été question juste au début de l'intervention.
Au tout début, vous pourriez préciser un petit peu de quoi il s'agit?
Oui, c'était dans les villes marchandes, et notamment les villes de Flandre, et puis toutes les villes de Londres. C'est à une époque où là, les frontières de la France n'ont rien à voir avec les frontières actuelles. Hein. Donc, notre géographie, qui est quand même nationale, est une géographie mouvante, parce que les frontières nationales ont beaucoup évolué entre le Moyen Âge et aujourd'hui, et donc notamment dans les Flandres, qui étaient les grandes villes de foire, hein, entre l'Allemagne et qui n'était pas l'Allemagne et la France qui n'était pas tout à fait la France d'aujourd'hui, se battaient pour obtenir, je dirais, des formes d'autonomie, pour employer un vocabulaire, donc le droit de lever leurs impôts en rétrocédant au pouvoir royal ce qu'ils lui demandaient, d'être maître à bord dans une relation négociée, on va dire, c'était des termes très modernes, avec la royauté. En échange de quoi, le roi leur donnait un certain nombre de franchises. Vous savez que les villes étaient entourées de... Il y avait des barrières commerciales à l'entrée des villes. Donc le roi leur donnait des franchises pour circuler d'une ville à l'autre dans les terres qui dépendaient directement du pouvoir royal. Et le cas échéant, le roi intervenait militairement pour les défendre contre tel seigneur qui voulait s'attaquer à leur capacité. C'était essentiellement des problèmes financiers. Hein. Des problèmes financiers et des problèmes économiques.
Aussi une question sur les noms des rues, sur qu'est-ce que ça dit de
alors les noms des rues,
la mémoire de...
Les noms des rues. Alors donc, à la fin du Moyen Âge, il y a des rues qui sont nommées, mais c'est pas forcément écrit. Hein, mais on appelle les rues par les professions. Souvent, c'est des petites villes, et donc il y a la rue des tisserands, la rue des, etc. Hein. Donc les rues par ou par la population dominante qui s'est installée. Il y avait beaucoup de France, de rues. Dans le milieu de la France, vous avez des rues des Juifs, qui étaient les rues un peu ghetto, mais c'était pas des ghettos à du 19e siècle. Enfin, c'était quand même un pire. C'était le quartier juif de la rue, mais le plus souvent, c'était effectivement des professions. Mais comme notre histoire se déroule sur une très longue durée, Claude Gauvard montre que bien souvent, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, les noms qui sont des noms rentrés dans la mémoire, on les nomme comme ça, mais c'est pas écrit, ne correspondent absolument plus ou que très peu aux mutations qui se sont opérées. Alors, à partir du XVIIe siècle, on commence à avoir quelques appellations avec quelques grands hommes qui sont plutôt, je ne vais pas dire des écrivains, non, ce n'est pas des écrivains, mais enfin des savants. Enfin, c'est pas la règle. Et c'est avec le XVIIIe siècle, enfin, oui, c'est avec le XVIIIe siècle que le phénomène commence à s'étendre et puis va se généraliser. Au 19e. Alors oui, évidemment, ce qui est intéressant dans les noms de rue, c'est qu'on a, il y a des strates, enfin dans une ville comme Paris, on le voit très bien, on retrouve encore à Paris il y a toujours à Paris une rue de la petite rue André et de la grande rue André. Bon, c'est là qu'il y a des restaurants les plus chics de Paris. Hein. Je vous conseille le canard laqué, mais il est hors de prix. Donc vous ne craignez rien du point de vue des tire-bourses, mais vous craignez à cause du restaurant. Bon. Alors, à partir du 19e siècle, la dénomination des rues dépend du pouvoir municipal. Alors, ça peut être des administrés qui demandent à la municipalité de donner le nom d'un maire ou d'un résistant après la résistance, ou d'un militaire, ou que sais-je, ou d'un savant, ou de quelqu'un qui est né dans la ville, qui est devenu célèbre ailleurs. Et je dis un homme parce que vous savez que la féminisation de l'espace public est un phénomène relativement récent. Et il faut que ce soit avalisé par le conseil municipal. Bon, à Paris, c'était vrai par le conseil municipal sans maire élu, et maintenant c'est rentré dans la norme totale. Donc c'est un droit, je dirais que c'est un droit parisien, mais c'est un droit oui, politique au sens, en tout cas des administrations municipales, que de donner un nom à la ville. Je suis en train de chercher s'il y a des quatre préfets qui en auraient, je crois pas. On a vu que notre vice-présidente, notre présidente de la région a récusé le lycée, aidez-moi. Merci. Mais c'était un lycée. Les lycées dépendent de la région. Donc les noms de rues, et notamment les noms de... Et puis alors, on a, dans le cas de Paris, on a beaucoup de rues qui correspondent au lotissement. Hein. Dans le quartier, il y a vraiment toutes ces petites rues qui portent le nom de quelqu'un. Puis il y a beaucoup de... Dans les villes nouvelles et dans les nouveaux quartiers, on décline. Des fois, alors, on décline les musiciens, on décline les fleurs, ou on décline... Enfin bon, il y avait... Mais s'agissant de Paris, on n'a pas tellement besoin de fleurs parce que Et le nombre de rues, malgré tout, est limité, la demande est forte. Et donc, vous avez pu constater qu'à Paris, il y a eu une démultiplication, c'est du temps de Delanoë, ça, des places qui ne sont pas des places. Hein, qui sont des coins de rue et qui servent à mettre un nom, qui servent à satisfaire un besoin. Hein. C'est pas, j'ai l'air de plaisanter, mais ça dit quelque chose sur un besoin.
Moi, j'aurais une question sur l'Antiquité. Je trouve qu'on a passé un peu vite dessus. Mais...
Ben oui, forcément, je suis pas compétente.
Alors, je vais essayer de. Peut-être que c'est un fantasme de curieux et de béotien, mais est-ce que, quand même, dans ces temps très anciens, est-ce qu'on peut. Vous êtes arrivé à identifier des lieux ou des moments où on peut considérer que ça a été la première marche ou manifestation, c'est pas le bon mot, mais où la rue était occupée par des citoyens qui n'étaient pas forcément ceux-là.
Non, il peut y avoir des mouvements au sein de l'Agora, au sein du Forum, et au sein des équivalents dans les autres villes, ça, mais on est. Ça, c'est comme à l'intérieur d'un club révolutionnaire. On n'est pas dans l'espace public. Et il peut arriver, nous dit-elle, qu'en sortant de l'Agora et en sortant du Forum, ça crée un certain... certaine agitation dans les rues alentours. Mais elle a dit que ça serait vraiment tiré... que c'était pas con. Donc ça n'avait pas de sens pour elle d'intégrer ça avec notre chapitre. Non, on lui a vraiment posé la question. On a insisté.
Une autre question au fond de la salle sur l'avènement des rues et des voies piétonnes.
Oui, alors il y a tout un développement sur les voies piétonnes. On a notamment passé une photo de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux et c'est pris un petit peu en surplomb. Et donc elle est bourrée, mais juste quand je dis de piétons, il n'y a plus un espace entre les murs et les piétons. Alors on a, les voies piétonnes sont apparues en Europe, d'abord en Allemagne. Avec une relative facilité, si j'ose dire, parce que comme il y avait eu beaucoup de destruction, la reconstruction permet toujours de passer à l'étape suivante sans que ça crée justement trop de nostalgie ou trop de tension avec le passé qu'on élimine. Et ça a gagné ensuite la Grande-Bretagne, mais où il y avait eu des destructions aussi. Vous me direz qu'il y a eu des destructions en France, mais la France a été touchée un peu plus tardivement avec plusieurs phénomènes. Des voies piétonnières qui étaient des voies piétonnières à dimension commerciale. Il y a eu des piétonnisations à des fins patrimoniales, là on retrouve ce dont on parlait. Et des piétonnisations, alors maintenant des piétonnisations à des fins de reconquête de la rue sur l'automobile, avec là encore des tensions, parce qu'on sait bien que la piétonnisation génère des phénomènes festifs, c'est très sympathique, jusqu'au moment où ça n'est plus sympathique. Pour les riverains, et où il y a un phénomène de tension entre la vraie ville et la ville. C'est tous les trucs qui s'appellent la vallée village et je sais pas quoi. Il y a le retour de la rue, mais il y a eu le retour des villages pour désigner tout ce que vous voulez, qui vont dans le sens de cette nostalgie et qui correspondent pas.
Les villages de marque, vous voulez dire, hein? Les villages de marque.
Ouais.
C'est ça,
vous... c'est beau, avec le mot village.
Quoi. Oui, oui.
Ah ben bah, le truc de.
C'est bien.
Ah ben c'est, je m'y habille, oui, absolument, il n'y a pas de... Mais, non, mais ça dit quelque chose sur la construction nostalgique. Alors, je dirais là, ça ne dérange personne, parce que c'est
loin. Ce que vous dites quand vous parlez du centre-ville, pas des riverains, la notion de riverain, mais par exemple, aujourd'hui, avec les locations... des locations pour les vacanciers, tout ça, des studios, le fait qu'il y a des quartiers entiers qui deviennent simplement des lieux de passage. Les riverains, il n'y a plus la notion stable, très très stable de riverain, elle est un peu écornée. Quoi.
Ah ben, ça participe du phénomène. Ouais, ça participe des tensions que je ne résous pas dans la dernière partie, mais des contradictions potentielles.
Ils ne se plaignent pas des bruits de roulettes que même provoquent.
Non, mais ceux du canal Saint-Martin, un petit peu quand même.
Ouais. J'avais plus une question sur la rue, vous parliez des aménagements qui étaient le trottoir. Est-ce que oui, il y a d'autres aménagements que vous abordez, l'arrivée dans la rue ou sur
ouais, les clous, ce que nous appelons les clous, il y a la Pompéi.
D'accord. Les quoi, les
clous, enfin, à part que ce n'était pas des clous, c'était des passages piétons, Pompéi.
D'accord.
Et pour les bancs, enfin le mobilier urbain, en fait, ce que... Le fait de rester, en fait, de s'asseoir pour une période importante dans la rue, que ce soit pas un espace juste de circulation,
bah, c'est tout le, ça c'est tout le phénomène qui est très bien étudié par Emmanuel Furex, ça s'est passé sur le 19e siècle. C'est la ville du 19e siècle, c'est la ville de Baudelaire, c'est la ville du flâneur. Donc le flâneur il marche, mais le flâneur il peut aussi s'asseoir, et puis les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, etc. Et c'est effectivement un rapport qui devient un rapport on va dire de loisir à la rue, alors pas n'importe quelle rue, pas n'importe, mais avec avec des quartiers qui de bon, c'est pas dans le bouquin, mais j'étais à une journée d'études là où j'ai évidemment tout ce qui manquait dans le livre, parce qu'il y a des tas d'intervenants qu'on ne pourrait pas parler. Mais par exemple, on a pisté les femmes du début à la fin. Alors par exemple, puisque vous me dites à juste titre que j'ai pas beaucoup parlé d'antiquité, Catherine Saliou nous dit que à Rome, alors pour des raisons qu'elle ne connaît pas et que donc je ne pourrais pas vous expliquer, les femmes n'avaient pas le droit de se déplacer dans un véhicule attelé. Et donc elles n'avaient pas trop le droit de se déplacer, donc elles allaient. Et puis comme ça finit par quand même créer quelques difficultés, quelques 50 ans plus tard, les femmes mariées ont le droit de se déplacer dans un véhicule attelé, mais pas les autres. Et ça c'est à Rome.
Okay.
Et alors par ailleurs, donc c'est pas dans le bouquin, mais c'est la partie parc des Champs-Élysées, Proust, hein, c'était un espace de la promenade, mais les femmes seules ne s'y promenaient pas, ou alors c'était suspect, si j'ose dire. Et c'est là qu'il y a et les femmes, même surtout pas en cheveux, mais avec leur chapeau, ne s'installent pas non plus aux terrasses et cafés. C'est en même temps que les terrasses et cafés, c'est un peu comme vos bancs, hein, c'est une forme aussi d'appropriation autre. On regarde, on est regardé. C'est les cocottes, hein, qui sont installées là. D'où la création des salons de thé, qui sont peu nombreux à Paris, mais qui sont dans ces mêmes quartiers, qui deviennent un espace féminin. Où là, il est tout à fait peu. D'ailleurs, les hommes ne rentrent pas. Enfin, ils auraient le droit de rentrer, mais c'est pas fait pour ça. Quoi. D'ailleurs, on voit pas la même chose.
Est-ce que sur Haussmann, moi, ce que j'ai appris sur Haussmann, c'est qu'il a écrit ces grosses avenues pour précisément prévenir les futures émeutes et pouvoir emmener la troupe, donc la police de l'époque, hein, la police de l'armée, pour aller écraser les révoltes. Est-ce que ça, c'est fantasmé
disent,
ou...
Les historiens disent vraiment... C'est ce que les historiens ont dit à un moment donné. Les historiens ne disent vraiment plus ça, je dirais, archives à l'appui. Il est vrai que donc la dimension circulation était première, et ça pouvait avoir comme effet secondaire de permettre le passage de la troupe, mais ça n'était pas un objectif stratégique.
C'est pas le cahier des charges, quoi.
Et en tout cas, si ça l'avait été, c'était plutôt raté. Parce que la commune, comme on sait, c'est après Haussmann et pas avant.
Exactement. Et puis Daniel Tartakovsky revient pour conclure sur l'origine de la manifestation.
D'abord, il y a. C'est 19e, hein, c'est résolument 19e, 20e. Mais 19e, 20e, il y a une masse d'écrivains et de poètes qui parlent de la manifestation. Je ne parle pas de la foule, de la manifestation. Des fois, c'est la merde. Ah, c'est d'ailleurs dans le Trésor de la langue française, le Trésor de la langue française dit que l'abréviation manif. Est utilisé pour la première fois par Aragon en 52 dans Blanche l'oubli, où Aragon écrit c'est vers cette période que les étudiants se mirent à parler de manif. Donc ça devient, c'est même une référence pour le dictionnaire, je dirais. Notamment dans les romans, Andrier La Rochelle, de droite de gauche, hein, ou d'extrême droite, d'extrême gauche, comme vous voulez. Enfin, c'est des mots dans la littérature française. J'avais des belles descriptions de manifestations. Mais la manifestation est toujours le moment où le héros se perd la femme aimée, ne retrouve plus la femme aimée, se demande ce qu'il fait dans la vie, et n'est pas du tout là où il est. Et c'est en général, c'est un nœud dans le roman. Donc j'en concluais que la manifestation était, du point de vue scénographique, d'une certaine manière, un espace de construction du récit qui fonctionne. Enfin, j'en avais trouvé trop pour que ce soit pas... ça ne mérite pas de le relever, quoi, voilà.
La chanson d'Edith Piaf.
Oui, on peut l'entraîner. Oui, à part que là, c'est la foule. Oui, c'est là, là, c'est Aragon qui parle de la manif Ridgeway. Oui, c'est pas. Ou Rieu-La Rochelle qui parle du 6 février 34. Enfin, on est sur du. On est, justement, c'est des militants à leur manière et dans des manifs qui ont. qui ont marqué l'histoire.
Et pourquoi c'est important, février 34, justement, vis-à-vis de la manifestation, rappeler un petit peu le...
Alors, le 6 février 34, c'est le... Nous sommes sous la Troisième République, qui est caractérisée constitutionnellement par une très grande instabilité parlementaire, parce que il est très facile pour les majorités de faire et de défaire les majorités. Donc, à chaque fois qu'une majorité est mise en minorité, on change de président du Conseil. Et on n'est pas dans un régime présidentiel. Hein, donc grande instabilité parlementaire. On est dans une période de crise économique et politique et crise économique et politique et sociale. Plus un scandale politico-financier. Daladier radical doit obtenir, se présente devant la Chambre. C'est marqué une xième crise parlementaire pour obtenir la majorité. Et pendant que la séance se déroule, les organisations de la droite extra-parlementaire, dont l'une se réclame explicitement du fascisme, les autres, c'est plus con, les autres pas. Elles ont des stratégies différentes, enfin, elles ne sont pas sur la même position, mais, et elles ne sont pas négociées entre elles, mais elles appellent à manifester le même jour, à la même heure, autour de l'Assemblée. Ce n'est pas les mêmes points de rendez-vous, mais au total, ça fait un cercle autour de l'Assemblée. Et le gros de la foule est constitué par les anciens combattants qui ont été les premiers appelés à manifester. Ils ont des droits, hein, on est après 14, on est 20 ans après 14, pour les pensions. Et contre le régime des scandales. Alors quand on dit contre le régime des scandales, ça peut être contre le régime qui produit des scandales, ça c'est l'Action française, qui rêve d'une monarchie rénovée, ou ça peut être contre les scandales qui entachent le régime, ça c'est les anciens combattants. Et puis les autres, ils se situent... après vous avez autant de cas de figure qu'entre ces deux pôles-là. La manifestation, c'est une manifestation à la tombée du soir... Les anciens combattants, les manifestations d'anciens combattants sont tolérées parce qu'ils ont des droits. Manifestations de nuit, donc la police ne sait pas gérer ça. Donc y a, comme il n'y a pas de négociation préalable, enfin il y a. Donc très rapidement, la manifestation tourne à l'émeute. Personne ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire, y compris les dirigeants de chacune des organisations ne maîtrisent plus rien. Je m'appuie sur le compte-rendu de la commission parlementaire. Et qui conclut, on ne sait pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Voilà, il y a pas de chef d'orchestre. Excusez-moi, j'ai c'est le bordel le plus total.
Il n'y a pas de
meneur. Il n'y a pas de.
Comme disait Le Bon.
Des meneurs, il y en a, mais ils perdent tout le monde perd le contrôle. Alors attention, parce qu'une manif dans les années 30, c'est 10, c'est 20 000 personnes. Hein, c'est pas nos manifs à nous. Hein, ça rien de commun du point de vue des chiffres. Mais quand les anciens combattants voient que ça tourne un peu à l'émeute, ils remontent vers l'Arc de Triomphe. Vous me parliez des symboles tout à l'heure avec les plaques de rue, mais il y a aussi des symboles. Donc ils transforment la manifestation en hommage à ceux qui sont tombés, quoi. Et donc ils s'éloignent de l'Assemblée. Les Jeunesses Patriotes et l'Action Française, qui ont une bonne culture de la rue et une culture de la violence, assumée, essayent de franchir le pont qui mène à la Chambre des députés à l'époque. Personne ne maîtrise plus rien. Et Daladier, qui vient d'obtenir la majorité à la Chambre, démissionne. Parce qu'il a le sentiment qu'il ne peut pas ramener l'ordre, parce qu'il prend des contacts. Mais la préfecture de police, qui est assez à droite, ne prend pas particulièrement d'initiative offensive. Il essaie de voir ce qui se passe du côté de l'armée. On lui fait. Les généraux lui font comprendre qu'il ne faut pas trop compter sur eux. Et il démissionne dans la nuit. Ça veut dire que la rue a gagné. Donc, y a un débat qui n'en finit plus. Entre historiens, est-ce que c'était une tentative de coup d'état fasciste ou pas? Je fais partie des historiens qui considèrent que si par coup d'état fasciste on entend la répétition de ce qui s'est passé en Allemagne, c'était pas exactement ça. Mais par contre, quand on a un président du Conseil élu majoritaire qui démissionne devant la rue, alors là, il crée les conditions pour. Mais ce que je sais, c'est que les contemporains socialistes, communistes, CGTistes, CGTU, Ligue des droits de l'homme, eux, ils y voient la répétition de ce qui s'est passé en Allemagne en 1933. Et donc, cette manifestation qui risque d'ouvrir la voie à quelque chose qui pourrait se rapprocher, peut-être pas du fascisme au sens italien et allemand, mais en tout cas de la mise en place d'un pouvoir exécutif fort, un petit peu comme le nôtre, on va dire. Mais elle va avoir pour effet, c'est une victoire à la Pyrrhus pour la droite, puisqu'elle va donner le coup d'envoi de la construction du Rassemblement populaire. Alors, c'est pas, ça dure deux ans, hein, c'est pas le lendemain. Mais le 12 février, puisqu'on parle des manifestations, il y a la première manifestation nationale appuyer sur une grève nationale. La CGT appelle à une grève pour défendre la République. C'est en rupture totale avec ce qui a été sa culture anarcho-syndicaliste jusque-là, avec des manifestations dans la France entière. Et je dirais que c'est un peu un acte fondateur de notre manif de type moderne. Et il y a un décret qui est voté effectivement en octobre 35. Alors, le décret n'est pas voté pour... Ce n'est pas un décret de liberté. C'est un décret qui... Pas au contraire. C'est un décret qui peut... Non, il pose le principe de la demande d'autorisation préalable, ce qui permet la négociation. Non, c'est plutôt les préfets pouvant, dans des circonstances, etc., interdire. Mais c'est le moment où la... C'est ce que Clémenceau avait subodoré en 39 et puis il avait tiré un trait dessus parce que quand même il y a des limites. Mais ça amorce le processus de co-construction de la manifestation, ce qui n'exclut pas des événements tragiques que nous connaissons tous et la situation actuelle qui nous retiendrait, mais qui est un autre sujet.
Mais qui est encore en vigueur aujourd'hui, on peut dire.
Ah, le décret, il a été un petit peu... les délais ont été un petit peu... Et c'est en fait le seul texte jusqu'en 97... C'est le seul texte qui donne une place à ce truc qui jusque-là n'avait pas de nom, pas de statut, n'avait rien. Maintenant, ça existe en creux, quoi. Donc c'est pas rien. Mais c'est pas une nouvelle liberté, effectivement.
Et voilà. Et donc pour donner quelques dates de ce qui se passera encore la semaine prochaine dans le cadre de ce festival littéraire Paris malgré tout. Jeudi 8 juin, par exemple, 19h30, librairie La Friche, périphérique Quel Avenir, ou encore une balade sur les traces du Paris révolutionnaire. Ce sera le samedi 10 juin à Quilombo, cette fois, ce sera à 15h. Tout le programme, évidemment, sur le site de chaque librairie. Ce livre, L'histoire de la rue, paru donc aux éditions Talendier, se trouve bien sûr à la librairie Publico, mais aussi dans les bibliothèques de la ville de Paris. Toutes nos archives sont toujours sur sourier.info, les podcasts de chaque émission sur radio-libertaire.net. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Sono le 22:30.
4:01 in the morning on WKZO, your hotline. I'd like to welcome Bobby, Jimmy, and Susie to the coup d'etat hotline. But here we go with the quest for the evening. Shit is right. The motherfucking coup d'etat. Motherfucking coup d'etat, niggas. For all you real motherfuckers out there, this is the real shit. Now, I don't want you lazy motherfuckers. I don't want you sorry motherfuckers. And all you bitches and hoes out there, don't call me on my page anymore. The bitch is a coup d'etat.
Radio Libertaire. Salut, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Libertaire, le 89.4 sur la bande FM parisienne. C'est de poste non radio show qui commence là maintenant. Et c'est DJ Vice. Non, pas du tout en fait, c'est Enric. Donc, salut Serge.
Salut Enric.
Salut Yves.
Bonsoir Enric.
Salut Guy.
Salut Enric.
Oh.
Ta voix s'améliore de jour en jour.
Oh, parce que ça fait plaisir, ça fait flatteur. Ah, oh, salut Enric, oui, encore. Eh bien, ce soir, alors on commence un peu plus tôt et on est de nouveau en direct. Et je vais essayer de faire attention à ma voix pour ne pas avoir l'air trop... enfin, qu'elle ne fasse pas trop de trucs un peu chelous. Une émission un peu particulière qu'on avait entamée il y a quelques mois avec la revue des ondes, enfin des programmes,
le passage
des radios, du DAB+, de ce qu'on pouvait capter sur Paris avec un poste amélioré DAB+, puisque c'est cette nouvelle technologie, plus si nouvelle que ça, qu'on veut nous faire adopter. Pour l'instant, ça va, c'est plutôt cool. Et donc là, on réitère avec le volet numéro 2 de cette série d'émissions. Et promis, il y en aura un troisième plus tard, peut-être à l'automne, sur on fera un tour peut-être en province avec plus du côté des radios, on va dire, alternatives ou militantes, s'il en reste. Enfin, on fera quelque chose d'autre pour un peu boucler la boucle. Pour l'instant, on est toujours à Paris, sur la bande FM parisienne. Il y a de quoi faire. Et on va tout simplement se promener sur cette bande FM pour voir un peu qui sont, finalement, nos colocataires. N'est-ce pas, Yves?
Oui.
Nos colocataires.
Ah oui,
nos colocataires.
En deux mots, oui.
Ou en plusieurs. Si vous voulez. Non, parce que ça fait référence à une conversation qu'on entendait tout à l'heure au restaurant. Donc, on va se balader à travers les ondes. Je sais, c'est pas fabuleux, puisque on va... Mais ça, c'est une réflexion que je vais faire pas mal de fois. On va pas mal naviguer dans le conformisme. C'est sûr que de l'underground, de l'alternatif et du militant, va pas y en avoir beaucoup. Mais bon, on s'est amusé avec l'émission sur le DAB+, et on s'est dit qu'on allait réitérer, parce qu'on trouve ça marrant. On l'avait fait aussi, les radios autour du monde, Guy, si tu t'en souviens.
Ah oui, oui.
Ça, c'était avec un site internet,
oui,
où il suffisait de promener la souris sur une map monde géante, et on tombait donc sur des radios numérisées, mais qui existaient quelquefois, enfin pour beaucoup aussi, en FM ou AM selon les pays. Donc c'est plutôt, on va dire, on en est déjà au troisième volet, on va dire,
de
cette série d'émissions à la découverte des autres. Donc, ce soir c'est Paris, mais alors c'est des radios que l'on n'a pas faites en DAB+, puisque dans l'émission en DAB+, on a fait les radios qui n'émettaient qu'en DAB+. Et on s'est gardé celles qui faisaient les deux. Ce qui n'est pas le cas de Radio Libertaire, on le rappelle, qui n'est qu'en FM. On s'est gardé celles qui faisaient les deux, DAB+ et FM, pour cette émission-ci, pour en avoir beaucoup. Puisque... à Paris, il y a, alors j'ai mon petit brouillon, ma petite fiche. À Paris, il y a 54 fréquences, et c'est où il se trouve 62 radios, puisque Je reprends mon souffle puisque certaines radios se partagent l'antenne. Alors peut-être, quelquefois, on écoutera des podcasts de celles qui sont pas à l'antenne pour voir un peu ce que ça donne. On va prendre le temps. Mais avant toute chose, Serge, est-ce que tu peux nous rappeler ? Alors, on va commencer du début, hein ?
Oui.
Du tout début.
Oui.
On va commencer à partir de du 87.8.
Oui.
C'est-à-dire France Inter. Il y a de quoi faire. Mais est-ce que tu peux nous rappeler, avant de commencer, les catégories de radio ?
Alors, d'abord, juste une petite modification. Alors, effectivement, il y a 47 fréquences sur Paris. 47 fréquences.
Il n'y en a pas 54.
Non, il n'y en a pas 54. Non.
J'ai mal compté.
Non, non, c'est simplement effectivement la référence des pages de, je crois, de l'officiel des spectacles ou quelque chose comme ça. Ils se plantent tout le temps. Effectivement, il y a 47 fréquences qui sont utilisées sur Paris. Ensuite, il y a quelques fréquences autour de Paris, mais il y en a pas beaucoup.
Oui, d'accord. Voilà. Par exemple, comme Radio Anguin.
Exactement.
Ah, ok, suis-je bête ?
Voilà.
Je n'ai plus toute ma tête ces derniers
voilà.
temps.
Voilà. Alors, tu me demandais les catégories de radio.
Rappelons aux auditeurs ou quelques auditeurs, et bonsoir Fabien au passage.
Oui.
Fabien, j'ai oublié tes cartes postales. J'allais la prendre comme un totem, un porte-bonheur. Enfin, il faut que je trouve le terme exact. J'ai pas encore réussi à définir ce qu'était cette carte postale. Mais.
C'est Fabien ou Fabien ?
Fabien.
Ah oui, parce que c'est pas bien de dire bien.
Pardon ?
C'est pas bien de dire bien. Non, mais
enfin, voilà,
oui,
ok.
C'est un jeu de mots.
T'as le pêcheux qui veut plomber mon émission, stop.
Non.
Arrière, Satan. Non. Arrière, Satan. Sinon, on t'envoie sur France Inter. Donc, oui, pardon, c'est vrai. Tu as raison, Serge.
Il y a 47 fréquences, mais ça veut pas dire qu'il y a 47 radios. Il y a 47 fréquences, mais certaines radios partagent leurs fréquences. Voilà.
Voilà, donc en fait, il n'y a pas forcément 62 stations dans Paris même. Il y a 62 radios que l'on capte, et encore pas toutes.
Oui.
Allez, vas-y, les catégories.
Alors, ce qui nous concerne, nous sommes une radio libertaire, une radio associative. C'est-à-dire que c'est une radio à but non lucratif. Les radios associatives ont le droit de faire de la publicité à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires, de leur budget, entre guillemets, mais pas plus. Radio Libertaire est une radio associative, par exemple, et elle perçoit... elle peut percevoir des dons d'auditeurs, mais elle perçoit aussi le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ça, c'est valable pour toutes les radios associatives. Donc, chaque année, il y a...
Dis-nous, d'où vient cet argent ?
De l'argent public. C'est de l'argent public.
C'est pas les publicités des autres radios.
Alors, c'est effectivement... Les radios commerciales financent une partie du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
D'accord.
Ça date de 82, 83, enfin début des radios libres. Et les radios commerciales... Elles sont taxées, en fait. Voilà. Pour que survivent les radios associatives.
Non, parce que qu'on disait... Et l'autre partie, c'est de l'argent public.
C'est ça, exactement.
Qu'on ne dise pas non plus, ah là là, cette sale radio que je n'aime pas est financée par nos sous.
C'est
un
ça.
Peu comme le cinéma, où tu entends des gens dire, ah là là, ce cinéma français de merde est financé par nos impôts.
Exactement.
Non, il est financé par une taxe sur le billet d'entrée que tu payes pour aller voir tel ou tel film. Et tu peux aller voir La Guerre des Étoiles, tu payeras pareil que si tu veux avoir la dernière merde française.
Exactement.
Voilà, donc, moi, ça m'agace un peu, parce que à un moment donné, ça fait un peu poujadiste, pour être dans les exagérations, mais ça fait un peu quand même... Ok, moi aussi, je dis, on paye ça avec nos impôts, mais quelquefois, quand même, c'est un peu exagéré, quoi. Et c'est pas vrai, en plus. Cette fameuse taxe sur les billets de cinéma, c'est pas nos impôts, c'est nos sous, c'est une taxe détournée, on va dire. C'est pas un impôt, on va dire, c'est pas la TVA qui est un impôt, enfin bref, Passons.
Enfin, continue. À la base, en tout cas, à la base, oui. C'est effectivement
pas dès le début.
Une,
pas dès le début hein.
C'est effectivement, il y a un financement oui. De la part des radios commerciales, des radios associatives.
Oui, mais ça, c'est après
mais
86.
Mais indirect, voilà.
Après 86, oui, oui. Pas au début.
Oui, parce c'est que ça, là, c'est ça. Là, quand même, ouais. On a quand même, on a quand même, on a quand même un monument, monsieur, enfin Guy, qui est là depuis 1902 et qui a vécu.
1903.
Oui, il tournait, tu sais.
Premier Tour de France.
Non, Serge, il tournait, tu sais, les rouleaux de musique, là. Mmh. Enfin bref, passons. Donc, il connaît.
Oui, mais... Non, mais il y a quand même eu toute une lutte des radios libres au début. C'est pas à ce moment-là que
oui,
l'État.
Oui, c'est pas à ce moment-là. Je ne connaissais voilà. Pas la date exacte, mais je sais.
Ben voilà, il était corrigé.
Voilà.
Oui. Bon, poursuis.
On poursuit. Après le A, il y a le B. Alors le B, ce sont les radios commerciales indépendantes. C'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'un réseau national.
Alors un exemple.
Est-ce qu'on... Un exemple, par exemple, Voltage. Okay. Voltage est une radio locale, commerciale, indépendante.
D'accord.
Voilà. Okay. Et c'est pas Énergie, c'est pas, je sais pas moi, Nostalgie, ouais. C'est pas, etc. Des choses comme ça.
Ok.
Voilà.
Mais ça veut dire quoi, indépendante, dans ce cas-là ?
Elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'un réseau national.
Elles ne dépendent pas d'un réseau.
D'accord.
C'est un peu comme les cinémas. Quand tu ne dépends pas d'un gros réseau,
voilà.
T'es appelé indépendant.
Voilà, c'est ça.
C'est une drôle de qualification pour quelque chose qui n'a pas de signification.
Ben...
Le mot indépendant ne veut pas dire être seul alors que les autres sont en réseau. C'est un truc de fou, ça, comme vocabulaire.
Bon, ben, c'est comme ça.
C'est comme ça.
Cherche pas la merde.
Indépendant.
Okay. Serge, continue.
Et vous êtes indépendant à Radio...
Complètement.
Libertaire.
Oui, tout à fait.
À part le FSER.
Pas en réseau.
Mais bon, en même
à
temps...
À part le FSER...
Ah, parce que, attends, quand on arrivera à Radio Libertaire,
oui.
On expliquera le rapport... Enfin, on tentera de donner notre avis sur le rapport argent public et Radio Libertaire. Mais ça, c'est pas tout de suite... On continue la classification.
Alors, classification, les radios C. Alors là, par contre, les radios C, ce sont les radios qui sont de réseaux nationaux.
Pardon.
C'est France Inter. qui
veut parler. Excuse-moi, c'est moi qui...
Voilà. Ce sont les radios qui sont d'un réseau national, par exemple Énergie, et qui font un programme local. Également, ça c'est la catégorie C. En l'occurrence, par exemple, Énergie à Paris, c'est un réseau national, mais qui fait un décrochage local sur Paris, sur la région parisienne. Et donc voilà. Par contre, dans d'autres régions de France, vous avez Énergie qui ne fait pas de programme local. Et dans ce cas-là, quand ils sont publiés au journal officiel, ils le sont en catégorie D, c'est-à-dire réseau national passif, sans décrochage local.
D'accord.
Voilà. Est-ce que je pense que j'ai suffisamment été clair ?
Oui.
Et puis tout simplement, de C on est passé à D, donc c'est... J'ai expliqué pourquoi ça existait le D. Eh bien le E, ce sont les radio historique, périphérique ou généraliste, c'est-à-dire Europe 1, RTL, RMC, Sud Radio.
Oui, parce que on va quand même se rendre compte à un moment donné que, on va dire, par opposition entre guillemets à ces généralistes, si tu n'es pas une généraliste, t'es autre chose.
Oui.
Mettez autre chose qui ne dit pas son nom. Ce qu'on dit, ce sont des radios indépendantes, des radios associatives. Mais, comme en France, ce n'est pas quelque chose qui est vu sous un œil bienveillant, c'est aussi beaucoup des radios communautaires.
Oui.
Donc c'est là où tu te rends compte qu'existe quand même, sous la grande famille républicaine, des communautés différentes. Mais ça, on verra à travers le petit voyage qu'on va faire. Donc, ceci étant dit, ben on commence par la première radio.
Eh oui.
Je mets le son.
Oui.
Allez.
87.8.
87.8.
20%, c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins.
Hey.
Mesdames,
Laurence Bloch. Elle a été remplacée par Adèle Tendray.
Ah non, mais tu peux pas parler, attends. Ah, pardon. Alors, on peut... Attends.
Incident technique.
Alors, Serge, je suis en mono là.
Oui, j'ai remarqué, oui, effectivement.
Alors, attends.
Donc, attends, bouge pas, je vais essayer de voir de mon côté.
Vas-y.
S'il n'y a pas de problème. Non, c'est de côté, de ton côté le problème technique.
Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption.
Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non ? Entre le tien et le mien.
Alors, on va discuter un peu. Déjà, on tombe sur quelle émission là ?
Bah, on tombe sur l'émission Côté Club avec Pedro Winter, qui est un.
Ah non, attends. Il est 22h25. Tu es sûr que tu es sur France Inter là ?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Excuse-moi, mais. Cette musique, c'est Côté Club.
Oui, c'est l'émission Côté Club avec Pedro Winter et Greg. Voilà.
Pedro Winter. Parce que Pedro Winter, il me semble que c'était un DJ, non ?
Oui, tout à fait. Ben, pourquoi pas ? Effectivement.
Alors,
moi, je connais pas les programmes de France Inter par cœur. Donc, voilà. Ah oui, oui.
Il y a un faux contact.
Il y a un faux contact. Voilà. Ah. Voilà. Voilà. Tenez.
Attendez, on va écouter.
Pedro Winter et Greg sont les deux héros ce soir de Côté Clubbing. Greg, vous signez le DJ set de la soirée. Merci à vous pour fêter la sortie de ce nouvel EP Jazznet. Ça correspond à quoi cette expression Jazznet ? C'est une spécialité locale à l'île Maurice ?
C'est la nouvelle expression à Maurice tout de suite en ce moment. C'est tous les chanteurs de dancehall, chata. Ils utilisent ça, c'est un peu un moyen de dire être en roue libre. C'est vraiment ça. Et ben même moi, je ne connaissais pas l'expression avant.
Alors, comment se fait-il qu'on est, on est de la friture ?
Ah, c'est normal, parce qu'il y a une mauvaise réception et tout simplement parce que le studio de Radio Libertaire est bien isolé et tout ça. C'est normal.
Alors, ils font du clubbing.
Voilà, en fait, c'est Pedro Winter qui est l'invité de Greg, je pense.
Alors. Du dancehall qui vient de la Martinique.
Ah, c'est bête qu'on ait cette friture.
Oui, mais.
Je ne me souviens pas qu'on ait eu de la friture lors du DAB.
Moi, j'ai pas l'impression. Non, parce que c'était numérique, qu'il n'y avait pas de friture. Non, non, absolument.
Alors, est-ce que tu peux pas tourner l'antenne ?
Eh bien, j'ai fait. Je l'ai fait. Et,
on ne peut pas, on n'a pas mieux.
On n'a pas mieux, non. Il y aura d'autres radios où ça sera mieux, mais.
On n'a pas mieux. Il y a quelques temps que. En fait, à l'île Maurice.
Il faudrait que j'ai, en fait, un commutateur mono-stéréo. Je ne l'ai pas sur ce poste-là.
Là, on est en stéréo.
Là, on est en stéréo.
C'est mélangé. C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas.
Donc
mais
voilà.
En même temps, c'est en train de changer dans les soirées privées, qui sont un peu les rêves là-bas.
Donc là, on a une émission sur. Bah, c'est l'heure, tu me diras.
Oui.
Il faut une émission sur le. Qu'est-ce qu'ils sont modernes ? Ah, sur France Inter, le vendredi soir, 22h30, une émission sur le clubbing.
Mais jamais trop les deux.
On se mélange.
Alors,
Greg, DJ avec un programme éclectique, ça va de la techno au dancehall, ça part dans tous les sens, ça part surtout aussi à toute vitesse, une rapidité d'exécution phénoménale. Vous avez peur de vous ennuyer ?
C'est un peu ça.
Oh là là, qu'est-ce que c'est plan-plan ?
En même temps, quelquefois aussi.
On sent quand même, c'est le truc typique de la radio, des radios.
En général, je laisse 30 secondes, une minute et je coupe et je passe à autre chose. Mais ouais. C'est une peur de s'ennuyer.
Famille avec des musiciens, père, bassiste.
Ok, alors. Il se passe beaucoup de choses à France Inter en ce moment et à Radio France. Donc on va s'arrêter un tout petit peu sur France Inter.
Je fais un petit historique de France Inter.
Voilà, tu nous fais un petit historique et après. On se fera un petit point actualité sur France Inter, où j'en meurs d'impatience.
Bon, avant la guerre et pendant la guerre, en tout cas surtout pendant la guerre, il y avait la Seconde Guerre mondiale,
ouais.
Il y avait Radio Paris. Et puis, donc, à la Libération...
Radio Paris.
Oui, oui, tout à fait.
Radio Paris est aux Allemands.
A été supprimé, a été remplacé par les antennes de l'American Forces Network... Donc l'AFN, c'était le réseau international de radiodiffusion de l'armée américaine et qui a diffusé ses émissions depuis 1945 et qui vont cesser leurs émissions le 31 décembre 1946. Donc ils ont été présents un an sur la France, en tout cas sur Paris, pour remplacer le Radio Paris qui mentait aux Français, évidemment. Et ensuite, ils transmettent l'émetteur à la radiodiffusion française, RDF à l'époque. et cette dernière y diffuse dès le lendemain à 7h30 un nouveau programme composé des émissions du Club d'essai. C'est comme ça que ça s'est appelé jusqu'à ce que se crée Paris Inter le 15 février 1947. C'est le 27 décembre 1957 que Paris Inter devient France 1, hein, comme France 2, mais France 1, et diffuse 24 heures sur 24 depuis l'émetteur Grandes Ondes d'Alouis dans le Cher. Je ne sais pas si on dit d'Alouis ou d'Alouis dans le Cher. Et donc, voilà, ils émettent depuis 1957 en Grandes Ondes. Et malheureusement, cet émetteur a cessé d'exister depuis le 1er janvier 2017. Et pour l'appellation France Inter, il faudra attendre le 8 décembre 1963. J'ai un petit mot à dire à propos de France Inter en grandes ondes. Je trouve que c'est une ânerie d'avoir supprimé les émetteurs grandes ondes. Ah. Parce que on arrive, je suis désolé, mais il y a des zones blanches en France où on ne capte pas la FM, on ne capte rien du tout, du tout. Et les grandes ondes faisaient l'affaire. Donc c'est un peu dommage. France Inter, enfin voilà, les choses comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas. Voilà pour l'historique en tout cas de France Inter. Elle est un peu brève, mais il y a toute l'histoire de Radio France derrière, dont on pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est assez complexe à expliquer.
Alors qui écoute France Inter ici?
Ben moi j'écoute toutes les radios. Hein.
Oui c'est vrai, t'es un peu sado, t'es un peu maso toi. Ok.
Qu'est-ce qui se passe à France Inter en ce moment alors?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe plein de choses à France Inter. Il y a plein de gens qui s'en vont pour diverses raisons. Et ce qui a commencé à faire le buzz, à faire un peu plus parler à faire un peu plus parler, c'est l'affaire de Charline Machin Truc et de sa bande de ricaneurs. Parce qu'il faut bien. Parce que alors, s'il y a une émission où ça ricane de mieux pour bien signifier qu'ils sont extrêmement drôles, c'est un peu celle-là. Mais enfin bref. Donc, on a un petit extrait du canard. Oui. Si tu veux nous lire. Donc,
alors
c'est l'affaire Charline Machin. Changement d'horaire. Changement de fréquence de diffusion, une émission qui d'après eux super fonctionne bien, pourquoi avec de telles audiences? Voilà. On passe de tous les jours à une le dimanche, bref. Voilà. Donc on a un petit encart du canard que va nous communiquer Yves.
C'est Sibylle Veil qui a choisi de nommer Adèle von Rett pour remplacer Laurence Bloch à la tête de France Inter. Et Adèle von Rett, la directrice de France Inter, donc l'affirme, il n'y a rien de politique dans le fait qu'à la rentrée, Charline van den Lacker et ses camarades de « C'est encore nous » se verront, malgré d'excellentes audiences, passer d'une quotidienne à une émission du week-end. C'est Lucas Herral, l'ancien conseiller presse d'Elisabeth Borne et de Stanislas Guérini, qu'elle a récemment embauché au service communication d'Inter, qui lui a conseillé de dire ça. Ça, c'est un petit encart.
Tu joues bien.
C'est méchant.
Voilà.
C'est un petit encart du mercredi 17 mai dans le Canard Enchaîné, page 7. Commençons par
On parle de Charline van den Lacker.
Oui.
Comme ça.
Moi, j'appelle Charline Machin. Là, voilà. Parce que, bon, son nom. J'ai pas la patience.
Une humoriste, effectivement, très drôle.
Ah bon, qui a dit ça?
Moi.
Ah, tu la connais peut-être?
Oh, ben je l'ai écoutée des fois, elle est très drôle.
Tu l'as écoutée ou t'écoutes jamais la radio?
Eh ben oui, mais ça m'arrive d'écouter la télé. Et donc je l'ai entendu la télé.
Ah ok, bon, bah, d'accord.
Voilà.
Ok. Alors oui. Donc. Il y a ça. Et puis...
Alors, il ne faut pas croire que Laurence Bloch a pris sa retraite.
Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, cette dame?
Est-ce que je vais réussir à retrouver directement? Elle est... alors que je ne confonde pas, Laurence Bloch est actuellement directrice des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France, succédant à Dana Astier. Donc, elle est devenue directrice des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France. Ce qui peut expliquer que la semaine suivante, le Canard publie cette fois-ci une grande colonne avec pour titre « À Radio France, le retour de Laurence Bloch » en écrivant Bloch, B-L-O-Q-E, entre guillemets. Et ils disent « Le mercato de la rentrée est un sans faute à Radio France.